Roderick Lenzioli était né à Valence, en Espagne, en 1430 ou 1431, et descendait par sa mère d'une famille issue, à ce que prétendent plusieurs auteurs, de race royale, et qui, avant de jeter les yeux sur la tiare, avait eu des prétentions aux couronnes d'Aragon et de Valence. Dès son enfance, il avait donné des marques d'une vivacité d'esprit merveilleuse, et en grandissant, il avait montré un génie très apte aux sciences, et surtout à celles du droit et de la jurisprudence. Il en résulte qu'il acquit ses premières distinctions comme avocat, profession dans laquelle son habileté à discuter les affaires les plus épineuses lui fit bientôt une grande réputation. Cependant, il ne tarda point à se lasser de cette carrière, qu'il abandonna tout à coup pour celle des armes qu'avait suivi son père. Mais, après quelques actions qui prouvaient son sang-froid et son courage, il se dégoûta de celle-ci ainsi que de l'autre, et comme, au moment où ce dégoût commençait à le prendre, son père mourut, laissant une fortune considérable, il résolut de ne plus rien faire et de vivre en se laissant aller à son caprice et à sa fantaisie. Vers cette époque, il devint l'amant d'une veuve qui avait deux filles. La veuve mourut. Roderick prit les filles sous sa tutelle, mit l'une d'elles dans un couvent, et comme l'autre était une des plus belles femmes qui se pût voir, il la garda pour sa maîtresse. C'était la fameuse Rosa Vanozza, dont il eut 5 enfants, François, César, Lucrèce et Guifry. On ignore le nom du 5e. Roderick, retiré des affaires publiques, était tout entier à ses amours et à sa paternité, lorsqu'il apprit que son oncle, qu'il affectionnait comme s'il eût été son fils, avait été élu pape sous le nom de Calixte III. Mais le jeune homme était si amoureux à cette heure que l'amour faisait taire en lui l'ambition et qu'il fut presque effrayé de l'exaltation de son oncle, exaltation qui allait sans doute le forcer de rentrer dans les affaires publiques. En conséquence, au lieu d'accourir à Rome comme tout autre eût fait à sa place, il se contenta d'écrire à sa sainteté une lettre dans laquelle il lui demandait la continuation de ses bontés et lui souhaitait un long et heureux pontificat. Cette retenue d'un de ses parents, au milieu des ambitions que le nouveau pontife trouvait à chaque pas sur son chemin, frappa singulièrement Calixte III. Il savait la valeur du jeune Roderick, et, au moment où les médiocrités l'assiégeaient de tous côtés, cette capacité qui se tenait modestement à l'écart grandit encore à ses yeux. Aussi répondit-il à l'instant même à Roderick qu'au reçu de sa lettre, il eut à quitter l'Espagne pour l'Italie et Valence pour Rome. Cette lettre déplaçait Roderick du centre de bien-être qu'il s'était fait et dans lequel il se fût peut-être endormi comme un homme ordinaire si la fortune n'était pas venue l'en tirer par la main. Roderick était heureux, Roderick était riche. Les mauvaises passions qui lui étaient naturelles s'étaient, sinon éteintes, du moins assoupies. Il s'effraya lui-même à l'idée de changer la vie douce qu'il menait contre la vie ambitieuse et agitée qui lui était promise, et, au lieu d'obéir à son oncle, il retarda les préparatifs de son départ, espérant que Calixte l'oublierait. Il n'en fut pas ainsi. 2 mois après la lettre pontificale, un prélat romain, porteur de la nomination de Roderick à un bénéfice valant 20 000 ducats par an, et d'un ordre positif au titulaire de venir prendre plus tôt possession de sa charge, arriva à Valence. Il n'y avait plus à reculer, aussi Roderick obéit-il. Mais comme il ne voulait pas se séparer de la source où il avait puisé son bonheur depuis 8 ans, Rosa Vanozza partit de son côté, et tandis qu'il se rendait à Rome, elle se rendit à Venise, accompagnée de 2 domestiques de confiance et sous la garde d'un gentilhomme espagnol nommé Manuel Melchiori. La fortune tint vis-à-vis de Roderick les promesses qu'elle lui avait faites. Le pape le reçut comme un fils et le fit tour à tour archevêque de Valence, cardinal-diacre et vice-chancelier. À toutes ses faveurs, Calixte ajouta un revenu de 40 000 ducats, de sorte qu'à l'âge de 35 ans à peine, Roderick se trouva riche et puissant à l'égal d'un prince. Roderick avait eu quelque peine à accepter le cardinalat qui l'enchaînait à Rome et il eût préféré être général de l'Église, position qui lui eût donné plus grande liberté de voir sa maîtresse et sa famille, mais son oncle Calixte lui fit entrevoir la possibilité de lui succéder un jour Et de ce moment, l'idée d'être le chef suprême des rois et des peuples s'empara tellement de Roderick qu'il n'eut plus devant les yeux que le but que son oncle lui avait fait entrevoir. Alors, à compter de ce jour, naquit chez le jeune cardinal cette puissance d'hypocrisie qui fit de lui la plus parfaite incarnation du démon qui ait peut-être jamais existé sur la terre, et Roderick ne fut plus le même homme. Les paroles d'humilité et de repentir à la bouche, le front baissé comme s'il eût porté le poids de ses fautes passées, dédaigneux des richesses qu'il avait acquises et qui, étant, disait-il, le bien des pauvres, devait retourner aux pauvres, il passait sa vie dans les églises, dans les monastères ou dans les hôpitaux, acquérant, dit son historien, aux yeux même de ses ennemis, la réputation d'un Salomon pour la sagesse, d'un Job pour la patience et d'un Moïse pour la publication de la parole de Dieu. Seul au monde, Rosa Van Hoots pouvait estimer ce que valait la conversion du pieux cardinal. Bien en prit à Roderick de s'être posé aussi saintement, car son protecteur mourut après un règne de 3 ans, 3 mois et 19 jours, et il ne fut plus soutenu que par son propre mérite contre les ennemis nombreux que lui avait fait sa rapide fortune. Aussi, pendant tout le règne de Pie II, demeura-t-il constamment éloigné des affaires, et ne le vit-on reparaître que sous Sixte IV, qui lui fit don de l'abbaye de Subiaco et l'envoya en qualité de légat près des rois d'Aragon et de Portugal. À son retour, qui eut lieu sous le pontificat d'Innocent VIII, il se décida à faire enfin venir sa famille à Rome. Elle y fut conduite par Don Melchiori, qui, dès ce moment, passa pour le mari de Van Hoots et prit le nom du comte Ferdinand de Castille. Le cardinal Roderick reçut le noble espagnol comme un compatriote et un ami. Celui-ci, qui comptait mener une vie fort retirée, loua une maison dans la rue del Lungar, proche de l'église de Regina Celi et sur les bords du Tibre. C'est là qu'après avoir passé la journée en prière et en œuvre pieuse, le cardinal Roderick allait chaque soir déposer son masque. Alors, disait-on, quoique personne n'en pût donner la preuve, il se passait dans cette maison des choses infâmes. On parlait d'inceste entre le père et la fille et entre les deux frères et la sœur, de sorte que, pour faire cesser ces bruits qui commençaient à se répandre, Roderick envoya César étudier à Pise et Maria Lucrèce à un jeune gentilhomme aragonais, si bien qu'il ne resta plus à la maison que la Van Hoots et ses deux fils. Tel était l'état des choses quand Innocent VIII mourut et que Roderick Borgia fut proclamé pape. Nous avons vu par quels moyens la nomination s'était faite. Aussi, les 5 cardinaux qui n'avaient point participé à cette simonie et qui étaient les cardinaux de Naples, de Sienne, de Portugal, de Sainte-Marie in Portico et de Saint-Pierre-aux-Liens, protestèrent-ils tout haut contre cette élection qu'ils traitèrent de maquignonnage. Mais Roderick n'en avait pas moins, n'importe par quel moyen, réuni la majorité. Roderick n'en était pas moins le 216e successeur de Saint-Pierre. Cependant, tout arrivé qu'il était à son but, Alexandre VI n'osa point dès l'abord quitter le masque qu'avait porté si longtemps le cardinal Borgia, quoique, en apprenant sa nomination, il ne pût dissimuler la joie qu'elle lui causa, si bien qu'il s'écria, en levant les mains au ciel et avec l'accent de l'ambition satisfaite, lorsqu'on lui annonça que le scrutin venait de décider la question en sa faveur, « Suis-je donc pape? Suis-je donc le vicaire du Christ? Suis-je donc la clé de voûte du monde chrétien ?» « Oui, Saint-Père, lui répondit le cardinal Ascanio Sforza, le même qui avait vendu à Roderick les 9 voix dont il disposait au conclave pour 4 mulets chargés d'argent. Et nous espérons par votre élection donner la gloire à Dieu, le repos à l'Église et la joie à la chrétienté, attendu que vous êtes choisi par le Tout-Puissant lui-même comme le plus digne de tous vos frères. » Mais si courte qu'ait été cette réponse, le nouveau pape avait déjà repris son empire sur lui-même, et d'une voix humble et les mains croisées sur la poitrine, « Nous espérons, dit-il, que Dieu nous accordera son puissant secours, nonobstant notre faiblesse, et qu'il fera pour nous ce qu'il fit pour l'apôtre lorsqu'il lui mit autrefois les clés du ciel entre les mains, et qu'il lui confia le gouvernement de l'Église, gouvernement qui, sans l'aide divine, serait une trop lourde charge pour un mortel. » Mais Dieu lui promit que son esprit le dirigerait. Il en sera ainsi pour nous, je l'espère, et de votre côté, nous ne doutons pas que vous n'ayez tous cette sainte obéissance qui est due au chef de l'Église, en imitation de celle que le troupeau du Christ était obligé d'avoir pour le prince des apôtres. » Aussitôt ce discours terminé, Alexandre se revêtit des habits pontificaux et fit jeter par les fenêtres du Vatican des bandes de papier sur lesquelles son nom était écrit en latin et qui, enlevées par le vent, semblaient reporter au monde entier la nouvelle du grand événement qui allait changer la face de l'Italie. Le même jour, des courriers furent expédiés dans toutes les cours de l'Europe. César Borgia apprit la nouvelle de l'élection de son père à l'université de Pise où il étudiait. Son ambition avait rêvé parfois une telle fortune, et cependant sa joie en fut presque insensée. C'était alors un jeune homme de 22 à 24 ans, adroit à tous les exercices du corps et surtout aux armes, montant sans selle les chevaux les plus fougueux et tranchant la tête d'un taureau d'un seul coup d'épée. D'ailleurs, arrogant, jaloux, dissimulé, et, au dire de Tomasi, grand parmi les impies, comme son frère François était bon parmi les grands. Quant à son visage, les auteurs, même contemporains, en ont laissé une description tout à fait diverse, car les uns l'ont peint comme un monstre de laideur, tandis que les autres vantent au contraire sa beauté. Cette contradiction tient à ce que, dans certains moments de l'année, et au printemps surtout, sa figure se couvrait de pustules qui en faisaient, tant qu'elle durait, un objet d'horreur et de dégoût, tandis que, pendant tout le reste du temps, c'était le sombre cavalier aux cheveux noirs, au teint pâle et à la barbe fauve que nous a montré Raphaël dans le beau portrait qu'il a fait de lui. Au reste, historiens, chroniqueurs et peintres sont d'accord sur son regard fixe et puissant, au fond duquel brillait une flamme incessante qui lui donnait quelque chose d'infernal et de surhumain. Tel était l'homme dont le sort venait de combler toutes les espérances et qui avait pris pour devise « Aut César, aut nihil !» César ou rien. César prit la poste avec quelques-uns de ses familiers et à peine eut-il été reconnu aux portes de Rome que les respects qu'on lui rendit témoignèrent aussitôt de son changement de fortune. Au Vatican, les respects redoublèrent, les grands s'inclinèrent devant lui comme devant un plus grand qu'eux. Aussi, dans son impatience, sans visiter sa mère ni aucune autre personne de sa famille, il monta droit chez le pape pour lui baiser les pieds. Et comme celui-ci avait été prévenu de son arrivée, il attendait au milieu d'une assemblée brillante et nombreuse de cardinaux, et ayant ses trois autres frères debout derrière lui. Sa sainteté le reçut d'un visage favorable, mais cependant sans se laisser aller aux démonstrations de son amour paternel, se baissa vers lui, le baisa au front et lui demanda comment il se portait et de quelle façon s'était passé son voyage. César répondit qu'il se portait à merveille et tout au service de sa sainteté, que, quant au voyage, ses petites incommodités et sa courte fatigue avaient été compensées et bien au-delà par la joie qu'il éprouvait de pouvoir adorer sur le Saint-Siège pontifical celui qui en était si digne. À ces mots, laissant César à genoux comme il était et se rasseyant lui-même, car pour l'embrasser, il s'était soulevé de son siège, le pape donna à son visage un air grave et composé, et parla ainsi qu'il suit, assez haut pour être entendu de tous et assez lentement pour que chacun des assistants pût peser et retenir la moindre de ses paroles. « Nous sommes bien persuadés, César, que vous êtes singulièrement joyeux de nous voir à ce fête suprême, si élevé au-dessus de nos mérites et auquel il a plu à la bonté divine de nous faire monter. Cette joie nous était due d'abord en échange de l'amour que nous vous avons toujours porté et que nous vous portons encore, et ensuite pour votre propre intérêt, puisque vous pouvez vous promettre de recevoir désormais de notre main pontificale les bienfaits dont vos bonnes œuvres vous rendront dignes. Mais si votre joie, et ceci, nous le disons à vous comme nous l'avons dit à votre frère, c'est fondé sur notre base, vous vous êtes grandement trompé, César, et vous vous trouverez tristement déçu. Nous avons aspiré, peut-être, et nous le confessons humblement à la face de tous, avec une passion immodérée, à la souveraineté du pontificat, et nous avons suivi, pour y parvenir, tous les chemins qu'a pu nous ouvrir l'industrie humaine. mais nous avons agi ainsi en nous jurant à nous-mêmes qu'une fois arrivés à notre but, nous ne suivrions plus d'autre voie que celle qui conduit au meilleur service de Dieu, à la plus grande exaltation du Saint-Siège, afin qu'une glorieuse mémoire des choses que nous ferons efface le souvenir honteux des choses que nous avons faites. Si bien que nous en viendrons à laisser, je l'espère, à nos successeurs, une route où, s'ils ne trouvent pas les traces d'un saint, ils pourront suivre au moins les pas d'un pontife. Dieu, qui nous a secondés dans les moyens, réclame de nous le résultat, et nous sommes disposés à satisfaire pleinement à cette grande dette que nous avons contractée envers lui. C'est pourquoi nous ne voulons pas éveiller par nos fraudes les rigueurs de sa justice. Un seul empêchement pourrait donc traverser nos bonnes intentions, ce serait si nous éprouvions un intérêt trop vif pour votre fortune. Aussi, nous sommes-nous cuirassés d'avance contre notre amour et avons-nous prié Dieu qu'il nous soutienne, afin que nous ne bronchions pas à votre sujet. Car dans le chemin du favoritisme, un pontife ne peut glisser sans tomber et ne peut tomber sans porter un grand préjudice à l'honneur du Saint-Siège. Nous pleurerons jusqu'à la fin de notre vie les fautes auxquelles nous devons l'expérience de cette vérité, et plaise à Dieu que l'heureuse mémoire de Calixte, notre oncle, ne porte pas aujourd'hui dans le purgatoire le poids de nos péchés, plus encore que des siens. Hélas, il était riche de toutes les vertus, il était plein de bonnes intentions, mais il aimait trop les siens, et parmi les siens, nous particulièrement, de sorte que, se laissant mener aveuglément par cet amour et par celui qu'il avait pour ses parents, dont il avait trop fait sa propre chair, il accumula sur quelques têtes seulement, les moins dignes peut-être, les bénéfices qui devaient récompenser les mérites d'un grand nombre. En effet, il déposa dans notre maison ces trésors qu'il ne fallait pas amasser aux dépens des pauvres ou qu'il fallait convertir en un meilleur usage. Il démembra de l'état ecclésiastique, déjà si faible et si restreint, le duché de Spolète, ainsi que d'autres riches domaines, afin de nous en faire des fiefs. Il appuya sur notre faiblesse la vice-chancellerie, la vice-préfecture de Rome, le généralat de l'Église et toutes les autres charges les plus considérables, qui, au lieu d'être accaparées ainsi pour nous, devaient être conférées à ceux-là que leurs mérites en avaient rendu les plus dignes. Il y en eut alors qui, à notre recommandation, furent élevés à de suprêmes dignités, qui n'avaient d'autre mérite pour arriver là que la protection trop partiale que nous leur accordions, tandis que d'autres furent écartés, qui n'avaient d'autre cause pour ne point parvenir que la jalousie que nous inspirait leur mérite. Pour dépouiller Ferdinand d'Aragon du royaume de Naples, il alluma une terrible guerre, dont l'issue heureuse n'avait d'autre résultat que d'augmenter notre fortune, et dont l'issue malheureuse ne pouvait amener que honte et dommage au Saint-Siège. Enfin, en laissant gouverner par ceux qui sacrifiaient le bien public à leurs intérêts particuliers, il porta un notable préjudice, non seulement au trône pontifical, non seulement à sa renommée, mais encore, et ce qui est bien plus fatal, à sa conscience. Et cependant, ô sagesse des jugements de Dieu, si fort et si constamment qu'il se fût employé pour établir notre fortune, à peine eut-il laissé vide la place suprême que nous occupons aujourd'hui, que nous nous trouvâmes renversés du fait où nous étions montés, abandonnés à la furie du peuple et aux haines vindicatives de ces barons romains qui se regardaient comme offensés par notre bienveillante partialité pour leurs ennemis. De sorte que, non seulement, comme je vous le dis, César, il nous fallut tomber précipitamment du haut de notre grandeur et de ces biens et de ces dignités que notre oncle avait accumulés sous nos pieds, mais encore, pour ne pas perdre la vie, nous condamner, nous et nos amis, à un volontaire exil grâce auquel seulement, nous parvînmes à nous dérober à l'orage soulevé par notre trop grande fortune. Cela nous fut une preuve évidente que Dieu, sachant se jouer des desseins des hommes dès que ces desseins sont injustes, c'est une grande erreur au pontife que de s'appliquer davantage au bien d'une maison qui ne peut durer que quelques années qu'à la gloire de l'Église qui est éternelle, et que c'est une grande folie à ces politiques qui, ayant le gouvernement d'un domaine qui n'est héréditaire ni pour eux ni pour leurs successeurs, appuient l'édifice de leur grandeur sur d'autres bases que sur les hautes vertus exercées au profit de tous et croient assurer la durée de leur fortune par d'autres moyens que par ceux qui compriment ces tourbillons inattendus, qui, s'élevant au milieu du calme, peuvent soulever une tempête, c'est-à-dire leur créer une masse d'ennemis dont un seul, agissant sérieusement, leur causera plus de dommages que ne peuvent leur apporter de secours les démonstrations trompeuses de 100 amis. Si vous et vos frères cheminez par la voie louable dont nous vous ouvrons l'entrée, vous ne formerez pas un désir qu'il ne soit à l'instant même accompli. Mais si vous prenez le chemin contraire, si vous avez espéré que notre affection se fera la complaisante de vos désordres, vous aurez bientôt la preuve que nous sommes pontifes pour l'Église et non pour la maison, et que, comme vicaire du Christ, nous voulons faire ce que nous jugerons être le bien de la chrétienté, mais non ce que vous aurez jugé, vous, être votre bien à vous. Et ceci bien entendu, César, recevez notre bénédiction pontificale. » Et à ces mots, Alexandre VI se leva, imposa les mains à son fils, toujours agenouillé, et se retira dans ses appartements sans l'inviter à le suivre. Le jeune homme était resté stupéfait de ce discours auquel il s'attendait si peu et qui détruisait d'un coup ses plus chères espérances. Aussi, se relevant étourdi et chancelant comme un homme ivre et sortant du Vatican à l'instant même, il courut chez sa mère, à laquelle il n'avait pas pensé d'abord et vers laquelle il revenait dans son abandon.